Les Misérables de Victor Hugo. Adapté par Hélène Bleskin. Réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. 12e épisode.
Marius confie à Gavroche une lettre pour Cosette où il explique que leur mariage est impossible et qu'il va certainement mourir au combat. Gavroche sort de la barricade et remet la lettre à Jean Valjean. En revenant, il est tué alors qu'il ramasse des cartouches pour les révolutionnaires. Juste avant l'assaut, Jean Valjean, qui a rejoint la barricade et a prêté main forte aux révolutionnaires, libère Javert. Marius et ses amis sont en première ligne.
On se battait corps à corps. Bossuet, Feuilly, Courfeyrac, Combeferre furent tués. Marius était si criblé de blessures que son visage disparaissait dans le sang. Un coup de feu venait de lui casser la clavicule. Il sentit qu'il tombait. En ce moment, il eut la commotion d'une main vigoureuse qui le saisissait, et son évanouissement, dans lequel il se perdit, lui laissa à peine le temps de cette pensée mêlée au suprême souvenir de Cosette « Je suis fait prisonnier, je serai fusillé ». Enjolras, ne voyant pas Marius parmi les réfugiés du cabaret, eut la même idée. Mais ils étaient à cet instant où chacun n'a que le temps de songer à sa propre mort. « Fusillez-moi !» dit Enjolras. 12 hommes se formèrent en peloton et apprêtèrent leurs fusils en silence. Quand tout à coup, ils entendirent une voix forte. « Vive la République, j'en suis !» Grantaire traversa la salle d'un pas ferme et alla se placer devant les fusils près d'Enjolras, qui lui serra la main en souriant. Ce sourire n'était pas achevé que la détonation éclata. La barricade était prise. Les soldats commencèrent la fouille des maisons d'alentour et la poursuite des fuyards. Marius était prisonnier, en effet. La main qu'il avait étreint par derrière était celle de Jean Valjean. On se rappelle cet angle qui faisait une sorte de cap dans la rue. Il garantissait des balles et des regards aussi. C'était dans cette espèce de repli qu'Éponine avait agonisé. Là, Jean Valjean s'arrêta, il laissa glisser à terre Marius et jeta les yeux autour de lui. La situation était épouvantable. Que faire? À force de regarder, il aperçut à quelques pas de lui une grille de fer posée à plat et de niveau avec le sol. Jean Valjean s'élança. Sa vieille science des évasions lui monta au cerveau comme une clarté. Soulever la grille, chargé sur ses épaules Marius inerte, descendre en cédant des coudes et des genoux, laisser retomber la lourde trappe de fer, cela fut exécuté avec une force de géant, et cela dura quelques minutes à peine. Il se trouva, avec Marius toujours évanoui, dans une sorte de long couloir souterrain. Là, paix profonde, silence absolu, nuit. C'était dans l'égout de Paris qu'ils se trouvaient. Des périls d'un autre genre et non moins grands les attendaient peut-être. Quand Jean Valjean eut fait 50 pas, il fallut s'arrêter. Comment s'orienter? Ce labyrinthe a un fil, c'est sa pente. Suivre la pente, c'est aller à la rivière. Il le comprit sur le champ. S'il choisissait la gauche, il arriverait avant un quart d'heure à quelque embouchure sur la Seine entre le pont au Change et le pont Neuf. C'est-à-dire à une apparition en plein jour sur le point le plus peuplé de Paris. Il valait mieux s'enfoncer dans le dédale et s'en remettre à la Providence quant à l'issue. Il remonta la pente et prit à droite. Il allait devant lui avec anxiété, mais avec calme, ne voyant rien, ne sachant rien, plongé dans le hasard. Par degrés, disons-le, quelle horreur le gagnait. L'ombre qui l'enveloppait entrait dans son esprit. Il marchait dans une énigme. Comment sortirait-il de là? Trouverait-il une issue? Tout à coup, il vit son ombre devant lui. Stupéfait, il se retourna. Derrière lui flamboyait une sorte d'astre horrible qui avait l'air de le regarder. C'était la sombre étoile de la police qui se levait dans l'égout. Heureusement, s'il voyait bien la lanterne le voyait mal. Il se rencogna le long du mur. Cette marche était de plus en plus laborieuse. Il était forcé de se courber pour ne pas heurter Marius à la voûte. Un peu au-delà d'un affluent qui était vraisemblablement le branchement de la Madeleine, il fit halte. Il était très las. Avec la douceur de mouvement qu'aurait un frère pour son frère blessé, il déposa Marius sur la banquette de l'égout. Le cœur battait encore. Jean Valjean déchira sa chemise, banda les plaies le mieux qu'il put et arrêta le sang qui coulait. Puis, se penchant sur Marius, toujours sans connaissance, il le regarda avec une inexprimable haine. En dérangeant les vêtements de Marius, il avait trouvé son portefeuille. Sur la première page, il trouva les quatre lignes écrites par lui. On s'en souvient. « Je m'appelle Marius Pontmercy. Portez mon cadavre chez mon grand-père, M. Gilles Normand, rue des Filles du Calvaire, numéro 6, au Marais. » Il reprit Marius sur son dos et se remit à descendre l'égout. Il se trouvait en présence d'un fontis. C'était un trou de boue dans une caverne de nuit. L'eau lui venait aux aisselles. Il fit un effort désespéré et lança son pied en avant. Il heurta on ne sait quoi de solide, un point d'appui. Il était temps. Il se redressa, marcha presque vite. Il aperçut une lumière. La lumière bonne et blanche, c'était le jour. C'était bien la sortie, mais on ne pouvait pas sortir. Il pouvait être 8h30 du soir. Il déposa Marius le long du mur, puis marcha à la grille et crispa ses deux poings sur les barreaux. La grille ne bougea pas. Une main se posa sur son épaule. Jean Valjean crut rêver. Cet homme lui était connu, c'était Thénardier. Il s'aperçut tout de suite que Thénardier ne le reconnaissait pas.
Écoute, camarade, tu n'as pas tué cet homme sans regarder ce qu'il avait dans ses poches. Donne-moi la moitié, je t'ouvre la porte.
Jean Valjean se fouilla. Il n'avait que quelques monnaies dans le gousset de son gilet.
Oh, tu l'as tué pour pas cher.
Thénardier se mit à palper en toute familiarité les poches de Jean Valjean et celles de Marius. Tout en maniant l'habit de Marius, il trouva moyen d'en arracher, sans que Jean Valjean s'en aperçût, un lambeau qu'il cacha sous sa blouse, pensant probablement que ce morceau d'étoffe pourrait lui servir plus tard à reconnaître l'homme assassiné et l'assassin.
Ah, c'est vrai. L'un portant l'autre, vous n'avez pas plus que ça. N'importe. C'est suriner les gens à trop bon marché. Maintenant, l'ami, il faut que tu sortes. Tu as payé. Sors.
Thénardier mit la clé dans la serrure. La porte tourna. Cela se fit très doucement. Cette douceur était sinistre. L'égout était évidemment en complicité avec quelques bandes mystérieuses. Thénardier referma la grille et replongea dans l'obscurité. Jean Valjean se trouva dehors. Il laissa glisser Marius sur la berge. Un homme de haute stature, enveloppé d'une longue redingote, se tenait debout à quelques pas en arrière. Jean Valjean reconnut Javert.
Qui êtes-vous ?
Jean Valjean.
Javert posa ses deux mains puissantes sur les épaules de Jean Valjean. Son regard était terrible.
Inspecteur Javert, vous me tenez, prenez-moi. Seulement, accordez-moi une chose.
Qu'est-ce que c'est que cet homme ?
Aidez-moi d'abord à le rapporter chez lui.
Cet homme était à la barricade. C'est celui qu'on appelait Marius.
C'est un blessé.
C'est un mort.
Non, pas encore. Il demeure au Marais.
Cocher !
Il était nuit close quand le fiacre arriva au numéro 6 de la rue des Filles du Calvaire.
Quelqu'un ici qui s'appelle Gilles Normand ?
C'est ici. Que lui voulez-vous ?
On lui rapporte son fils. Il est mort, il est allé à la barricade. Allez réveiller le père.
On monta Marius au premier étage et on le déposa sur un vieux canapé dans l'antichambre. Ils remontèrent dans le fiacre.
Inspecteur Javert, accordez-moi encore une chose.
Laquelle ?
Laissez-moi rentrer un moment chez moi. Ensuite, vous ferez de moi ce que vous voudrez.
Cocher, rue de l'Homme Armé, numéro 7.
À l'entrée de la rue, le fiacre s'arrêta. Cette rue était trop étroite. Javert et Jean Valjean descendirent. Ils s'engagèrent dans la rue. Ils arrivèrent au numéro 7.
C'est bien. Montez. Je vous attends ici.
Parvenu au premier étage, Jean Valjean fit une pause. Soit pour respirer, soit machinalement, il mit la tête à la fenêtre. Il se pencha dans la rue. Il eut un éblouissement de stupeur. Il n'y avait plus personne. Javert s'en était allé. Rue des Filles du Calvaire, le médecin qu'on avait été chercher était accouru. La tante Gillenormand allait et venait, épouvantée. Basque déchirait des linges et préparait des bandes. La charpie manquant, le médecin avait provisoirement arrêté le sang des plaies avec des galettes d'ouate. Au moment où il touchait légèrement du doigt les paupières toujours fermées de Marius, la porte s'ouvrit. C'était le grand-père.
Marius !
On vient de rapporter monsieur, il est allé à la barricade.
Il est mort. Oh, le brigand. Il s'est fait tuer aux barricades. En haine de moi. Misère de ma vie, il est mort. Il savait bien que je l'attendais, que j'avais mis au chevet de mon lit son portrait du temps qu'il était un petit enfant. Tu t'es fait tuer par méchanceté. Oh, Marius, c'est abominable. Mort avant moi. Une barricade. Oh, le bandit. C'est le fils d'un de ces brigands de la Loire. Mais les enfants sont innocents des crimes de leur père. Oh, sans cœur. Clubiste. Oh, cet embriseur. Je vais mourir aussi, moi.
En ce moment, Marius ouvrit lentement les paupières.
Marius. Mon petit, mon enfant. Tu ouvres les yeux. Tu me regardes. Tu es vivant. Merci.
Javert s'était éloigné à pas lents de la rue de l'Homme Armé. Il souffrait affreusement. Une chose l'avait étonné, c'était que Valjean lui eût fait grâce dans la barricade. Et une chose l'avait pétrifié, c'était que lui, Javert, il eût fait grâce à Jean Valjean. Une de ses anxiétés, c'était d'être contraint de penser. La pensée, chose inusitée pour lui, et singulièrement douloureuse. Jean Valjean, c'était le poids qu'il avait sur l'esprit. Tous les axiomes qui avaient été les points d'appui de toute sa vie s'écroulaient devant cet homme. La générosité de Jean Valjean envers lui, Javert, l'accablait. Il sentait que quelque chose d'horrible pénétrait dans son âme, l'admiration pour un forçat. Sa suprême angoisse, c'était la disparition de la certitude. Il se sentait déraciné. Il était forcé de reconnaître que la bonté existait. Ce forçat avait été bon. Et lui-même, chose inouïe, il venait d'être bon. Donc, il se dépravait. Il se trouvait lâche, il se faisait horreur. L'idéal pour Javert, ce n'était pas d'être humain, d'être grand, d'être sublime. C'était d'être irréprochable. Or, il venait de faillir. L'autorité était morte en lui. Il n'avait plus de raison d'être. Que cela fût supportable, non. État violent, s'il en fut. Il n'y avait que deux manières d'en sortir. L'une, d'aller résolument à Jean Valjean et de le rendre au cachot. L'autre... Il se dirigea vers le poste indiqué par une lanterne à l'un des coins de la place du Châtelet. Il se nomma, montra sa carte au sergent et s'assit à une table du poste où brûlait une chandelle. Il prit une plume et se mit à écrire.
« Je prie, monsieur le préfet, de jeter les yeux. Les détenus de l'instruction ôtent leurs souliers et restent pieds nus sur la dalle pendant qu'on les fouille. Plusieurs toussent en rentrant à la prison. Cela entraîne des dépenses d'infirmerie. On ne s'explique pas pourquoi le règlement spécial de la prison des Madelonnettes interdit aux prisonniers d'avoir une chaise, même en la payant. Les détenus, dits aboyeurs, qui appellent les autres détenus au parloir, se font payer 2 sous par le prisonnier pour crier son nom distinctement. C'est un vol. Pour un fil courant, on retient 10 sous au prisonnier dans l'atelier des tisserands. C'est un abus de l'entrepreneur, puisque la toile n'est pas moins bonne. Il est certain qu'on entend tous les jours des gendarmes raconter dans la cour de la préfecture des interrogatoires de prévenus par les magistrats. C'est là un désordre grave. Madame Henri est une honnête femme. Sa cantine est fort propre. Mais il est mauvais qu'une femme tienne le guichet de la souricière du secret. Cela n'est pas digne de la conciergerie d'une grande civilisation. Javert, inspecteur de première classe, au poste de la place du Châtelet, 7 juin 1832, environ 1 heure du matin.
Il sortit du poste. Il regagna le quai. Il s'y accouda. L'obscurité était complète. L'endroit était précisément situé au-dessus du rapide de la Seine. À pic sur cette redoutable spirale de tourbillon qui se dénoue et se renoue comme une vis sans fin. Tout à coup, il ôta son chapeau et le posa sur le rebord du quai. Une figure haute et noire apparut debout sur le parapet, se courba, puis se redressa et tomba droite dans les ténèbres. Et l'ombre seule fut dans le secret des convulsions de cette forme disparue sous l'eau. Marius fut longtemps ni mort ni vivant. Il eut durant plusieurs semaines une fièvre accompagnée de délire. Il répéta le nom de Cosette avec la sombre opiniâtreté de l'agonie. Tant qu'il y eut péril, M. Gillenormand, éperdu au chevet de son petit-fils, fut comme Marius, ni mort, ni vivant. Enfin, le 7 septembre, le médecin déclara qu'il répondait de lui. La convalescence s'ébaucha. Du reste, cette longue maladie le sauva des poursuites. En France, il n'y a pas de colère, même publique, que 6 mois n'éteignent. Les émeutes dans l'état où est la société sont tellement la faute de tout le monde qu'elles sont suivies d'un certain besoin de fermer les yeux. Monsieur Gillenormand traversa toutes les angoisses et ensuite toutes les extases. Il regardait Marius avec des yeux de grand-mère. Il le couvait quand il mangeait. Il y avait de l'abdication dans sa joie. Ses cheveux blancs ajoutaient une majesté douce à la lumière gaie qu'il avait sur le visage. Il y a on ne sait quelle aurore dans de la vieillesse épanouie. Quant à Marius, il avait une idée fixe, Cosette. Il ne savait pas ce qu'elle était devenue. Toute l'affaire de la rue de la Chanvrerie était comme un nuage dans son souvenir. Des ombres presque indistinctes flottaient dans son esprit. Éponine, Gavroche, Mabeuf, les Thénardier, tous ses amis étaient lugubrement mêlés à la fumée de la barricade. L'étrange passage de M. Fauchelevent, dans cette aventure sanglante, lui faisait l'effet d'une énigme dans une tempête. Il ne savait comment ni par qui il avait été sauvé, et personne ne le savait autour de lui. Mais il y avait dans cette brume quelque chose qui était en granit, retrouver Cosette. Soulignons ici un détail, il n'était point gagné par toutes les tendresses de son grand-père. Ses anciens griefs reparaissaient. Il se disait qu'il n'avait aucune vraie bonté à espérer de qui avait été si injuste et si dur avec son père. Et avec la santé, il lui revenait une sorte d'âpreté contre son aïeul. Le vieillard en souffrait doucement. Une crise approchait, évidemment. Un matin, il advint que M. Gillenormand, à propos d'un journal qui lui était tombé sous la main, parla légèrement de la Convention et lâcha un épiphonème royaliste sur Danton, Saint-Just et Robespierre.
« Les hommes de 93 étaient des géants. »
Le vieillard se tut et ne souffla point du reste de la journée. Un jour qu'il était penché sur Marius, il lui disait de son accent le plus tendre
« Vois-tu, mon petit Marius, à ta place je mangerai maintenant plutôt de la viande que du poisson. Pour mettre le malade debout, il faut une bonne côtelette. »
Ceci m'amène à vous dire une chose.
Laquelle ?
C'est que je veux me marier.
Prévu, oui, prévu, tu l'auras, ta fillette. Elle vient tous les jours, sous la forme d'un vieux monsieur, savoir de tes nouvelles. Depuis que tu es blessé, elle passe son temps à pleurer et à faire de la charpie. Je me suis informé. Elle demeure rue de l'Homme Armé, numéro 7. Ah, tu la veux, eh bien tu l'auras. Vois-tu, j'ai vu que tu ne m'aimais pas. J'ai dit, tiens, j'ai ma petite Cosette sous la main, je vais la lui donner, faudra bien qu'il m'aime alors un peu. Monsieur, prenez la peine de vous marier. Sois heureux, mon enfant bien-aimé.
Mon père.
Oh, tu m'aimes donc. Allons, le voilà débouché, il m'a dit, mon père.
Mais... à présent que je me porte bien, il me semble que je pourrais la voir.
Prévu encore. Tu la verras demain.
Pourquoi pas aujourd'hui ?
Eh bien, va pour aujourd'hui. Je vais m'en occuper, prévu, te dis-je. Ceci a déjà été mis en vers. C'est le dénouement de l'élégie du jeune malade d'André Chénier, qui a été égorgé par les célèbres... par les géants de 93. Égorgé n'est pas le mot. Le fait est que les grands génies révolutionnaires trouvaient qu'André Chénier les gênait un peu et qu'ils l'ont fait guillotiner. C'est-à-dire que ces grands hommes, le 7 Thermidor, dans l'intérêt du salut public, ont prié André Chénier de bien vouloir aller... Ils ont égorgé Célia !